Wait a minute. Wait a minute, Doc. Are you telling me that you built a time machine?
Dudes, you guys are gonna go back in time.
Ladies and gentlemen.
10, 9.
Dr. M presents.
6, 5, 4, 3.
Classics 2, time machine.
1, 0. All engine running.
On Radio Santa Freak.
Good evening, ladies and gentlemen, et bienvenue dans un nouveau numéro de Classics Time Machine en direct de nos studios. Merci de nous rejoindre à bord de cette merveilleuse invention qui nous permettra ce mois-ci de revisiter ensemble l'année 1969 en musique et en archives. Je suis le Dr M, votre humble serviteur et érudit de service, et nous allons partir pour un voyage d'une heure à travers le vortex radio-temporel. Vous connaissez la routine, alors installez-vous confortablement, détendez-vous et laissez-vous guider. Il fait chaud en cette soirée d'été, mais pas de panique, je vous ai programmé quelques classics tout droit sortis du frigo où il dormait depuis 50 ans cette année. Juste le temps de programmer le GPS temporel sur la dite année. Classics Time Machine 1969, let's roll!
Vous êtes en 1969.
Mesdames et messieurs, je suis votre commandant de bord et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous survolons actuellement l'année 1969 et que notre voyage atteindra sa destination dans moins d'une heure. Il est temps de regarder par votre hublot, car si le rock psychédélique et la soul connaissaient en 1969 leurs années de gloire, la pop des 60s, elle, n'était toujours pas morte. Comme en témoigne ce titre qui fit un carton en tête du Billboard cet été-là, le groupe américain The Archies connut alors son plus gros succès avec Sugar Sugar. Ça sent bon la guimauve et le milkshake aux couleurs pastel. That's right folks, we are right back in the sweet and sugary taste of the 60s. Classics Time Machine, your favorite classic rock radio show, is proud to present The Archies Sugar Sugar.
Sugar. Oh, honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you. Honey, oh, sugar, sugar, you are my candy girl, and you got me wanting you. I just can't believe the loveliness of loving you.
I just can't believe it's true.
I just can't believe the wonder of this feeling too.
I just can't believe it's true.
Ah, sugar. Kiss could be.
I know how sweet a kiss can be.
Like the summer sunshine, pour your sweetness over me.
Pour your sweetness over me.
Oh, sugar,
oh, yeah, sugar on it, honey.
Seconds and counting. T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, Three, two, one, zero. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
Here, we got a roll program.
Neil Armstrong reporting their roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading.
11, Houston, if that's not the Earth, we're in trouble.
Roger, Eagle, that's gone.
Roger, how does it look?
The Eagle has wind.
Houston, you're go for landing, over.
Roger, understand, go for landing.
30 feet, 2.5 down. We're drifting to the right level. 30 seconds.
Oh, jeez.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
We're home. Man on the moon.
I'm at the foot of the ladder.
Armstrong is on the moon. Neil Armstrong, 38-year-old American, standing on the surface of the moon.
2 miles.
On this July 20th, 1969.
That's one small step for man, giant leap for mankind.
Alors, on m'a signalé en régie un petit problème technique en début d'émission. Je vous prie de nous en excuser. Il fait chaud pour tout le monde, même à Radio Saint-Afrique. Alors si vous êtes un ou une assidu de cette émission, vous allez me dire « Mais cher docteur, vous avez déjà parlé de l'alunissage des premiers hommes sur la Lune le 20 juillet 1969 ?» Et vous avez raison. Mais je ne vais pas vous relater en détail cet exploit accompli il y a 50 ans ce mois-ci devant des centaines de millions de téléspectateurs, non. Je vais me permettre une tribune, une réponse à une critique qui m'est parvenue aux oreilles lorsque je me suis permis de moquer les complotistes parmi nous. Je leur dois des explications. Il y a en effet des personnes qui sont persuadées que l'homme n'a jamais mis un pied sur la Lune et que tout fut une mise en scène de la NASA sur ordre du gouvernement américain. Les images que nous connaissons auraient été filmées en studio à Hollywood par le réalisateur Stanley Kubrick, rien que ça, pour nous faire croire à cet exploit. Pardon. Et oui, pour certains, il est parfois dur de briller en société par sa finesse d'esprit et le complot, eh ben, ça leur donne une raison de se croire plus malin que la masse de gens dont ils font partie. Alors il leur faut des preuves, et les preuves, elles sont toutes sur YouTube, car si c'est sur Internet, c'est que c'est vrai, c'est QFD. Certains s'étonnent par exemple que le drapeau américain hissé flotte fièrement sur les images. Or, il n'y a pas de vent sur la Lune, donc le drapeau ne peut pas flotter. Voilà l'argument massue. Or, si le drapeau a l'air de flotter, c'est qu'évidemment, une tringle horizontale a été installée sur le drapeau pour le tenir droit. On regarde l'intégralité de la vidéo et on voit même Armstrong et Aldrin déployer cette tringle et y faire glisser le drapeau. Il ne flotte pas, il est étendu. Mais ce n'est pas tout. Sous le LEM, le module lunaire, il n'y a pas de traces de cratères formés par les fusées d'alunissage de l'appareil. Ah ah ! Encore une preuve du complot ! Eh bien non, la raison pour laquelle il n'y a pas de cratère, c'est simplement que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère et la gravité est beaucoup plus faible que sur la Terre. Si on souffle sur la surface, il n'y a pas de formation de poussière vu qu'il n'y a pas d'air pour la soulever et les quelques particules qui sont projetées retombent très très lentement et loin de leur point de souffle. C'est un phénomène physique ultra connu et vérifié maintes fois. Autre argument, sur les photos, on ne voit pas d'étoiles dans le ciel lunaire alors qu'il est d'un noir absolu. Lorsque Armstrong et Aldrin se sont posés sur la surface lunaire, il était 3h56 heure française, ce qui correspond sur la Lune au jour. Si on ne voit pas les étoiles, c'est qu'il faisait jour. Si le ciel est noir même pendant le jour, c'est que la Lune n'a pas d'atmosphère et pas d'océan qui reflète leur couleur bleue dans le ciel. C'est aussi simple que ça. Mais même s'ils avaient aluni en pleine nuit, on ne verrait pas d'étoiles sur les photos, car pour les distinguer sur un cliché, il faut un temps d'ouverture du diaphragme très 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 long. N'importe quel amateur photographe vous le dira. Prenez une photo du ciel étoilé avec votre appareil photo et vous aurez quoi ? Un écran tout noir, faites le test. Quod erat demonstrandum, oui, c'est du latin, car quicquid latine dictum sit, altum sonatur. Quant à l'absurde idée que Kubrick himself aurait tourné le film, c'est tout simplement mal connaître Kubrick que de dire ça. Ce mec était tellement perfectionniste qu'il a toujours insisté pour filmer tout sur place. Il était tellement maniaque que si on lui avait confié une telle mission, il aurait insisté pour aller tout filmer sur la Lune. Enfin, les Russes, les concurrents des USA, ont dépensé sans compter pour mettre sur pied un tel exploit et étaient à deux doigts d'y parvenir. Pensez-vous qu'ils étaient si bêtes et que le KGB était si mal informé et incompétent pour se laisser duper par un simple film de propagande ? C'est faire insulte à l'intelligence d'un des plus redoutables services d'espionnage du monde que de l'affirmer. Voilà donc un éclaircissement scientifiquement et historiquement vérifiable. Les vidéos de YouTube, c'est super à regarder quand on s'emmerde, mais ce n'est pas parce qu'elles existent qu'elles ont été postées par Momo69, commercial chez Darty et chasseur de vérité à ses heures tardives, que cela lui confère une forme d'autorité intellectuelle en matière d'astrophysique. En la matière, son avis de pseudo-expert a autant de valeur que Dédé, retraité de la SNCF à Marcq-en-Barœul, qui vous donne son avis sur comment Trezeguet aurait dû tirer son pénalty en 2006. Mais je comprends les sceptiques. Franchement, Armstrong, un type qui joue si bien de la trompette, gagne 7 fois le Tour de France et en plus marche sur la Lune, c'est quand même un peu fort, non ? Bon allez, trêve de carabistouille, il est temps de repartir en musique vers notre prochain arrêt de ce voyage à travers 1969. Voici un titre qui vous mettra immédiatement de bonne humeur si vous ne l'êtes pas déjà. Un titre qui reste, à mon avis, le plus sympa du monde à chanter en voiture. Voici tout droit venu de la Motown, le groupe The Foundations. Avec cet hymne joyeux dédié à ces femmes qui nous en font tourner en bourrique, mais qu'on aime quand même, sur Classics Time Machine, on écoute Build Me Up Buttercup. It's the Foundations, let the good times roll.
Why do you build me a buttercup, baby, just to let me down? But you're late, I waited around and then I run to the door, I can't take anymore. It's not you, you let me down again. Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. You are my toy, but I could be the boy you adore. If you just let me know, although you are true, I'm attracted to you all the more. Why do I need you so? Baby, baby, try to find a little time and I'll make you happy. I'll be home, I'll be beside the phone waiting for you. Ooh, ooh, ooh. Why do you build me up, buttercup, baby, just to let me down? But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart.
Thousands of demonstrators opposed to the Vietnam War assembled in the nation's capital for a mass protest. For the most part orderly, minor scuffles did occur between the demonstrators and hecklers. A three-hour parade takes the demonstrators across the Potomac on their way to the Pentagon and included adults, students, even children. It is at the Pentagon where the first test of strength comes. Military police contain the crowd, but clashes soon break out. Federal marshals arrest several who attempt to break through the protective line. Reinforcing the marshals, a second wave of MPs with fixed bayonets in scabbards move into position.
C'est le 15 octobre 1969 qu'une foule immense déboule à Washington DC pour réclamer une fois de plus la fin de la guerre du Vietnam. Et cette fois, ils étaient venus en nombre. Plus de 100 000 personnes défilèrent dans la capitale pour exiger le retrait des troupes américaines et ce fut une foule bigarrée, mixte et colorée qui cette fois porta le message jusque sous les fenêtres du président Nixon. En majorité des étudiants, des hippies, des intellectuels, des noirs américains et des vétérans de cette sale guerre, ils ont eu un tel effet de prise de conscience auprès du grand public qu'ils réussirent, avec cette marche baptisée « Moratorium to end the war », à retourner l'opinion contre la guerre alors qu'elle y était jusqu'ici encore favorable. un des plus beaux exemples de ce que la désobéissance civique peut accomplir quand elle est menée de façon solidaire et intelligente. L'impact des slogans aujourd'hui banals comme « Make love, not war » ou « Flower power » fut immense et propagèrent une vague de pacifisme à travers tout le monde occidental, sonnant le summum du mouvement hippie qui allait s'imposer auprès de la jeunesse contestataire. Car souvenez-vous, 1969, c'était aussi l'année de Woodstock, le festival pour la paix dans le monde. Mais ça, c'est un sujet que nous allons aborder dans quelques minutes.
Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down just before it rained and rode us all the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, honey, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. Next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Honey, feeling good was easy down when he sang the blues. Hey, feeling good was good enough for me. Mm-hmm. Good enough for me and my Bobby.
Histoire de deux vagabonds qui se découvrent sur les routes en partance pour le ciel bleu de Californie et qui voyagent ensemble en se racontant leur vie et tombant amoureux avant de devoir se séparer en poursuivant chacun leur route. Ça vous rappelle pas une chanson de Michel Fugain, ça? Et pourtant, il s'agissait bien de Janis Joplin sur Classics Time Machine avec ce magnifique Me and Bobby McGee, son tout dernier single avant qu'elle ne soit retrouvée morte quelques mois plus tard dans sa chambre à 27 ans, victime d'une overdose d'alcool et d'héroïne.
This year, the judges of the Cannes Film Festival presented the award Best Film by a New Director to Easy Rider. It's the story of a man who went looking for America and couldn't find it anywhere. Easy Rider stars Peter Fonda.
You do your own thing in your own time. You should be proud.
Also starring Dennis Hopper, the award-winning director of Easy Rider. Co-starring Jack Nicholson.
What you represent to them is freedom.
What the hell's wrong with freedom, then? That's what it's all about.
Qu'il a mal vieilli ce film, mais pourtant, il reste un des piliers du genre de son époque, un road movie psychédélique et philosophique, où deux jeunes hommes en moto rêvent de traverser les USA pour y découvrir leurs compatriotes, à grand renfort de LSD et d'amour libre, avant de s'apercevoir que tout n'est que supercherie. Easy Rider 2 et avec Dennis Hopper, qui remporta le prix du meilleur premier film à Cannes en 1969, reste un film culte pour beaucoup. Et il n'y a pas que le film qui a mal vieilli, car Dennis Hopper, après avoir été une figure de proue du mouvement alternatif et hippie, s'est rangé du mauvais côté de l'histoire en devenant un des plus fervents soutiens à Donald Trump et au lobby des armes à feu, la NRA, balayant de ce fait toutes les valeurs pour lesquelles il avait milité pendant tant d'années. Et oui, le temps, comme toujours, fait aussi des ravages chez les gens qu'on pensait bien. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande quand même, car il permet de bien comprendre dans quel état d'esprit des milliers de jeunes rebelles se sont retrouvés quand ils réalisèrent que leurs idéaux ne seraient jamais applicables dans notre belle société individualiste et capitaliste à souhait. On repart faire un tour en musique au cœur de cette année 1969, avec le prochain titre de ce programme radio temporel, avec un tube monstre pondu par le groupe éphémère Shocking Blue, avec Venus sur Classics Time Machine, hosted by the infamous Dr. M.
Aquellos puntos vitales al desarrollo de la y agresión que están llevando a cabo los incivilizados milites. De esta manera, San Salvador será arrasado.
Ne vous inquiétez pas si vous avez à peine pu distinguer un ou deux mots en espagnol de ce terriblement mauvais extrait d'archives. Vous n'êtes pas seul et il ne faut pas m'en vouloir, car dégoter un extrait sonore de l'époque relatant l'étonnant conflit entre le Honduras et la République d'El Salvador entre le 14 et 18 juillet 1969 relève de l'impossible. Ce que vous venez d'entendre était un discours du président Fidel Sanchez Hernandez exhortant les Salvadoriens à la lutte totale contre le Honduras lors du déclenchement de son attaque surprise le soir du 14 juillet. Ce qui a déclenché le conflit, qui fit 5000 morts en 4 jours, cela peut paraître hallucinant, mais c'est la vérité, c'est la qualification d'El Salvador pour la Coupe du Monde de football au détriment du Honduras. Les matchs de qualification ont aggravé les tensions déjà existantes entre les deux pays pour des raisons territoriales et enterré les relations diplomatiques entre les deux pays. Le Honduras, qui avait remporté le match aller sur le score de 1-0, devait jouer le match retour au Salvador, où les supporters, avec la complicité de la police, ont fait un tel bruit en pleine nuit devant l'hôtel de l'équipe du Honduras que ces joueurs sont arrivés exténués sur le terrain le lendemain et subirent une lourde défaite sur le score de 3-0. Dès le lendemain, les deux pays retirèrent leurs ambassadeurs réciproques et 2 semaines plus tard, la guerre était enclenchée. Si les Salvadoriens connurent une avancée fulgurante en territoire hondurien, ils s'enlisèrent vite et ne purent atteindre la capitale Tegucigalpa avant d'être forcés par l'Organisation des États américains de se retirer et de signer un cessez-le-feu sous peine de sanctions. La guerre dura 100 heures et se termina par un status quo, mais rentra dans l'histoire comme la guerre du football.
Et la traversée durera toute une année. Ils vaincront les maléfices jusqu'en 70.
60 000 années érotiques. 69
et son Gainsborough vont rejoindre Paris. Ils ont laissé derrière eux la Tamise et Chelsea. Ils s'aiment et la traversée durera toute une année. Et que les dieux les bénissent jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69 années érotiques.
Et la traversée durera toute une année. Il pardonnera ses caprices jusqu'en 70.
69 années érotiques. 69
Et comment faire une émission sur 1969 sans passer ce splendide titre de Jane Birkin et Serge Gainsbourg sorti la même année, 69, année érotique. Vous êtes à bord de la Classics Time Machine avec le Dr M aux commandes. Le prochain arrêt en archive, c'est maintenant.
We have a weird homicide.
In a scene described by one investigator as reminiscent of a weird religious rite, five persons, including actress Sharon Tate, were found dead at the home of Miss Tate and her husband, screen director Roman Polanski. Miss Tate, who starred in Valley of the Dolls, was 8 months pregnant and was found in a bikini-type nightgown with a rope around her neck attached to the body of a man.
Two bodies inside, two bodies outside.
Among the other victims were Hollywood hairstylist Jay Sebring and coffee heiress Abigail Folger. Authorities would allow no one in an unofficial capacity inside the posh $200,000 home in the hills overlooking Los Angeles. When police arrived, they found the telephones and electricity lines cut. The bodies had been dead about 12 hours. They were discovered this morning by a maid who ran screaming to neighbors. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before."
Un fait divers bien sordide, il en fallait un pour être fidèle à la réputation de cette émission. Et c'est hélas le 8 août 1969 que parut dans la presse l'un des plus retentissants de cette année, le meurtre de l'actrice Sharon Tate, épouse du réalisateur Roman Polanski. Le matin du 9 août 1969 à Los Angeles, l'employé de maison du couple se rend à son travail et découvre une scène d'horreur. Sharon Tate, enceinte alors de 8 mois, gît au sol, attachée par des cordes au corps sans vie d'un de ses amis. Elle a été poignardée plus de 15 fois. Dans le jardin, trois autres proches de la victime sont retrouvés mortes. La police, arrivée sur place dans la foulée, constate que les victimes semblent avoir été exécutées selon un rituel étrange et des mots, parfois incompréhensibles, ont été écrits avec du sang sur les murs. Mais à part ça, les indices sont extrêmement maigres, il n'y a aucun témoin et la police patauge dans sa propre enquête. La seule chose qui paraît évidente, c'est la sauvagerie et la cruauté avec laquelle les meurtres ont été commis. Les agresseurs se sont acharnés sur leurs victimes, leur assénant à chacun des dizaines de coups de couteau et de revolver. La presse fait une affaire en or en publiant des photos sanglantes et des détails sordides à qui mieux, et se permet même de soupçonner Polanski lui-même d'avoir commandité les meurtres, celui-ci étant absent à l'étranger au moment des faits. Mais un rebondissement fait taire d'un seul coup toutes les rumeurs. Plus d'un mois après le massacre, la police a enfin mis la main par hasard sur les suspects. Il s'agit de trois jeunes femmes de 20, 21 et 22 ans et d'un jeune homme de 24 ans. Ils font tous partie d'une secte d'illuminés dirigée par un gourou psychopathe et obscur, Charles Manson. C'est lui qui a commandité les meurtres. Complètement shootés au LSD et à l'héroïne, les membres de la Manson Family, comme ils se désignent, suivent une pseudo-croyance ésotérique d'inspiration hippie et satanique. Le procès est démarré l'année suivante. La description détaillée des événements est absolument hallucinante et j'ai décidé de ne pas vous en faire part à l'antenne tant elle fait froid dans le dos. Ceux qui désirent assouvir leur curiosité macabre peuvent le faire aisément, les articles à ce sujet sont nombreux. Le motif du crime est totalement incompréhensible. Dans ses délires mystiques, le gourou Charles Manson semble avoir désigné cette maison comme étant celle où le diable lui-même les récompenserait s'il tuait tous ses occupants. Comble du tragique, les membres de la Manson Family étaient tellement perchés qu'il semble même qu'ils se soient trompés d'adresse et ont assassiné Sharon Tate et ses invités totalement par erreur. Tous furent condamnés à mort, mais leur peine fut convertie en emprisonnement à vie. Charles Manson, le gourou avec une croix gammée tatouée sur son front, qui se décrivait comme le fils du diable, est mort en prison en 2017. Bon, eh bien, c'est jamais facile d'enchaîner en musique la suite de l'émission quand on relate de tels événements lugubres, mais je vais tenter une fois de plus de le faire et de faire redescendre la pression en passant un disque qui fut incontestablement un des plus gros succès de l'année 1969 avec I Heard It Through the Grapevine de Marvin Gaye, un titre qui pourrait se traduire par « Je l'ai appris par le téléphone arabe », un titre qui parle d'adultère par un Marvin Gaye qui confronte son infidèle moitié à ses actes de trahison amoureuse. Ce fut un succès qui propulsa Marvin Gaye sur le devant de la scène en atteignant la première place des charts dans de nombreux pays, un véritable classique qui décidément ne prend pas une ride malgré ses 50 ans. Alors on essaye de se détendre un peu, je suis sûr que vous connaissez un peu les paroles, donc c'est parti. Ooh, I bet you're wondering how I knew.
I love you.
pas d'archives pour vous parler du prochain sujet de cette année 1969, car malheureusement, j'ai remué ciel et terre dans les archives pour trouver ne serait-ce que le plus maigre extrait sonore sur cet événement, mais en vain, il n'y eut en 1969 aucun média qui reprit la nouvelle des émeutes en juin de cette année, aux abords du bar gay de New York, de Stonewall Inn. Et pourtant, ce fut l'un des événements fondateurs du mouvement pour l'égalité des droits de ce que l'on appelle aujourd'hui la communauté LGBTQ, qu'on appelait à l'époque les homos, ou même qu'on n'appelait tout simplement pas, tant leurs revendications et même leur existence n'étaient pas prises en compte par personne. À cette époque, toujours perçue comme une déviance, l'homosexualité était officiellement tolérée, mais dans les faits, elle était bien souvent réprimée. Les citoyens gays et lesbiennes n'avaient pas droit de citer et leurs paroles étaient sciemment étouffées et passées sous silence par les autorités, qu'elles soient des USA ou même d'Europe. Rappelons qu'en France, l'homosexualité n'a été décriminalisée qu'en 1982 et qu'à l'époque, un jeune député dénommé François Fillon avait farouchement milité pour le maintien du délit d'homosexualité. Mais bref, revenons à New York où ce soir du 28 juin 1969, dans le quartier de Greenwich Village, la police a fait une énième descente dans un bar gay, Stonewall Inn, pour arrêter et faire recenser les homosexuels présents pour établir des fiches de renseignement sur la clientèle du dit bar. Seulement, lassé d'être pourchassé, fiché, réprimé, brimé, discriminé et humilié, l'arrestation de masse se transforme en acte de résistance par les jeunes gays new-yorkais. La foule, excédée, commence à se battre contre la police, criant aux officiers de rentrer chez eux. Lorsque des renforts arrivent pour embarquer encore plus de monde, le quartier s'embrase. Venue de toutes parts, la communauté gay dépêche sur place une foule si grande que la police est submergée. Elle ne peut pas faire face à une foule constituée de plusieurs centaines de jeunes femmes et hommes, gays ou hétéros, qui font reculer les forces de l'ordre sous les huées et les moqueries. Les affrontements escaladent, la police anti-émeute fonce dans le tas, matraquant et tabassant tous ceux qui se trouvent sur leur passage. La police procède à 600 arrestations, parmi eux le jeune chanteur, pas du tout gay mais très engagé, Bob Dylan, venu se joindre à l'émeute. Vers 4h du matin, la police parvient à disperser les manifestants et organise un blocus du bar Stonewall Inn. Le lendemain, la foule est de retour et la police, cette fois, plie bagages, les manifestants jubilent. Cet événement est une toute première victoire sur un système oppressif et discriminatoire et marque le début des luttes sociales de cette communauté pour acquérir enfin les mêmes droits que tout citoyen. Aujourd'hui, des progrès énormes ont été atteints, mais on peut hélas encore facilement se rendre compte qu'il est bien plus facile de changer les législations que les mentalités. Bon, il est temps de repartir en musique toujours plus loin dans cette année 1969, avec rien que pour vous sur Classics Time Machine, ce qui reste, à mon humble avis de Dr. M, le titre du groupe britannique The Rolling Stones, Gimme Shelter, le meilleur titre, Gimme Shelter, sorti en 1969 sur leur album Let It Bleed. Il faut que j'explique pourquoi je pense que ce single est leur meilleur. Ce n'est pas tant dû à la mélodie géniale ou aux paroles pacifistes, mais à la performance incroyable d'une choriste qui chante avec le groupe. Je parle d'une grande dame de la musique soul des années 60 et 70, pourtant restée dans l'ombre toute sa vie malgré un talent rare. Cette dame, c'est Mary Clayton. Son nom ne vous dira peut-être rien, mais son palmarès est impressionnant. Elle a chanté sur un nombre incalculable de tubes cultes pour Ray Charles, Joe Cocker, Tom Jones, Elvis Presley, Neil Young, Carole King, Lynyrd Skynyrd, The Who, Ringo Starr, Coldplay, et j'en passe, et donc aussi pour les Rolling Stones. Et donc, lorsque Mick Jagger écoute le résultat des enregistrements de ce nouveau titre à l'été 1969, eh bien il n'est pas 100% satisfait, il trouve qu'il manque quelque chose pour donner un peu plus de punch. Son producteur a une idée, puisqu'ils sont à Los Angeles, il connaît une excellente vocaliste et l'appelle en pleine nuit. Il est 3h du matin lorsque Mary Clayton, enceinte de 6 mois, débarque au studio en pyjama de soie avec ses bigoudis et entame sa session. Et je vous laisse juger de son talent car je trouve que c'est elle qui fait la moitié du boulot à elle seule. Essayez en écoutant ce titre de vous imaginer Mary Clayton enceinte, en pyjama et posant une telle performance et vous aurez une idée du respect que mérite cette grande dame de l'ombre. C'est parti sur Classics Time Machine, voici, j'ai envie de dire, Mary Clayton and the Rolling Stones avec Give Me Shelter.
I'm gonna fade away. Well, the Great Rock Festival is now history. The last of the nearly 500,000 young people who traveled to Bethel, New York during the weekend have now departed. And the dairy farm where they listened to 3 days of rock music is quiet, except for the normal sounds of cows mooing. Here's a report on the last of the vibrations from ABC's Gregory Jackson.
By 1969, it really did feel like we were finally winning some kind of cultural war against the establishment.
Young people were rejecting the status quo. The one thing that affected everybody was the war in Vietnam.
I knew a lot of people who just felt, we have to do things differently.
We were looking for answers. We were looking for other people that felt the same way as we did. The outside world thought it was a disaster area. Well, that's not what we thought.
It was the freedom of being able to be who you were, not feeling that somebody was going to judge you.
I think they are really a wonderful group of kids. I've never met so many kids in such large numbers that were so polite, so patient, so courteous, and understanding on the conditions that we had here in the last 3 days.
3 jours de paix et de rock and roll, ce fut le slogan du plus légendaire festival de l'histoire du XXe siècle et toujours inégalé depuis, The Woodstock Music and Art Fair, plus connu sous le nom de Festival de Woodstock. Pensé au départ comme un concert pour la paix et prévoyant d'accueillir au maximum 50 000 visiteurs, l'organisation du festival est très vite débordée par la foule immense venue par tous les moyens sur les terrains d'une ferme de Bethel dans l'état de New York, créant des bouchons interminables et pressant plus de 200 000 personnes à ses portes. Devant l'afflux massif de la marée humaine, les organisateurs décident d'ouvrir les portes et de laisser l'entrée gratuite. La nouvelle se répand et le jour même, ce sont en tout un demi-million de festivaliers qui se ruent sur la bourgade pour voir jouer Janis Joplin, Jimi Hendrix, Jefferson Airplane, Joan Baez, oui c'est comme ça qu'on dit, Crosby, Stills, Nash & Young, Santana, Ravi Shankar, The Band, The Who et bien d'autres. Pendant 3 jours, dans une ambiance peace and love et malgré une logistique complètement défaillante, les hippies ont mis en pratique le fameux slogan « Sex, Drugs and Rock'n'Roll ». La vie s'y faisait en constellation de petits villages de tentes, avec à chacun son ambiance, sa cuisine, ses orgies et ses expérimentations psychédéliques. Malgré une foule immense, on ne dénombra quasiment pas d'incidents violents. Il y eut 3 morts, un par overdose, un autre par accident et encore un à la suite d'une crise d'appendicite qui furent compensés, si on peut dire, par 4 accouchements sur le site. Lorsque le 18 août 1969 au matin, le festival a pris fin, il ne resta qu'une mer de déchets qu'il fallut plusieurs semaines aux responsables pour nettoyer. La génération 69 était peace and love, certainement, mais pas encore éco-responsable. Et pour terminer cette émission complètement dans l'ambiance hippie, il est temps de passer le dernier disque de cette soirée consacrée à 1969 en vous faisant écouter un titre complètement psychédélique mais tellement mélodieux, Crimson and Clover par Tommy James and the Shondells, qui nous dépeint l'arrivée d'une très jolie jeune femme devant ses yeux et il la voit d'ailleurs cernée de trèfles tourbillonnants sur fond de brume rouge carmin. Mais il est un peu fort sur les champignons en 1969. And now, ladies and gentlemen, the last musical stop for this evening on Classics Time Machine, hosted by the groovy Dr. M, it's Crimson and Clover by Tommy James and the Shondells, dude.
Ah!
Mesdames et messieurs, le Dr M, votre commandant de bord, est ravi de vous annoncer que nous venons d'atterrir à nouveau sans encombre, malgré quelques turbulences dans l'année 2019. La température extérieure à cette heure avoisine toujours les 36 degrés. Il est temps pour moi de vous remercier d'avoir choisi Classic Time Machine Airlines pour votre voyage radiotemporel en cette merveilleuse année 1969. Comme toujours, veuillez vérifier de n'avoir pas laissé votre stress sous votre siège et de le déposer dans les poubelles prévues à cet effet en sortant de l'appareil. Le commandant Dr M, qui a réalisé, monté, programmé et écrit cette émission, souhaite exprimer sa gratitude à notre technicien et navigateur de bord, Clément, pour son savoir-faire et son aide précieuse. Nous vous souhaitons de rester, bien sûr, au frais jusqu'à la prochaine émission, où notre équipage vous emmènera avec enthousiasme vers les 90s. Vous pouvez bien sûr revivre ce voyage exceptionnel par sa qualité autant de fois que vous le désirez sur notre site web www.radiosantafrique.com, rubrique émission mensuelle, Classics Time Machine, et y laissez vos commentaires et suggestions. Nous espérons vous revoir le mois prochain pour une nouvelle aventure radiophonique supersonique. Bonnes vacances, et si vous en avez, et à bientôt.
C'est des Classics Time Machine. Une émission proposée par Dr. M. A bientôt.
I'll be back.